おかしいおかしい。それかで。
Bonsoir. Trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. D'abord, une série d'ordonnances ont été rendues publiques mercredi dernier à la Radio-Télévision nationale congolaise, portant révocation, mise en retraite et promotion de certains magistrats. Et puis, les évêques catholiques ont, dans une déclaration dimanche dernier, dénoncé la persistance de la corruption en République démocratique du Congo. Et enfin, le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, a été réélu avec plus de 78% des voix. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Marcelin Mandouakila, qui est directeur des rédactions au quotidien Forum des As, un journal paraissant à Kinshasa. Eina Sana, journaliste au quotidien Le Potentiel, un journal paraissant aussi à Kinshasa. Et enfin Mathieu Mpokidi, il est éditeur du journal L'Embouchure, un journal paraissant à Matadi au Bas-Congo. Mais d'abord, pour voir comment les journaux quinois ont analysé les trois thèmes de ce soir, on écoute la revue des presse avec Kéline Couté.
Bonsoir. Commençons ce journal des journaux par la révocation et mise en retraite d'une centaine de magistrats par le chef de l'État mercredi dernier. Le palmarès indique que par les ordonnances qu'il a signées, Joseph Kabila opère un grand chambardement dans la magistrature et d'ajouter avec cette tornade qui balaye la magistrature, Joseph Kabila déclare la guerre aux antivaleurs et répond au message des évêques. Pour sa part, la référence plus parle plutôt de la réforme du système judiciaire et souligne que Joseph nettoie la magistrature. Ce quotidien affirme que pour une nouvelle justice, Joseph Kabila a nommé une nouvelle génération de magistrats qui ont sans doute la mission de lutter contre les antivaleurs et l'impunité dans le pays. La tempête de tropique affirme de son côté que par ses ordonnances, le chef de l'État dit avoir appliqué les recommandations du Conseil supérieur de la magistrature afin de débarrasser l'appareil judiciaire des fléaux qui le rongeaient. Parlons du message des évêques dénonçant la corruption dans le pays. La tempête de tropique commente ce message et note que les dirigeants congolais sont trempés dans la corruption. Pour les membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la clochardisation du peuple est la conséquence de la mauvaise gestion du pays et de la corruption, ajoute le même journal. Enfin, terminons cette revue de presse avec la réélection du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Dans sa parution du mercredi dernier, le journal L'Observateur notait déjà que le président Sassou avait les atouts pour remporter cette élection dès les premiers tours. Selon ce journal, Sassou avait affronté une opposition sans véritable leader, mal organisé et embourbé dans la lutte des leaderships. C'est la fin de ce journal de journaux.
Merci Kelly, écoutez pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Mathieu Mpokidi, vous êtes éditeur du journal L'Embouchure, un journal qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Et à Matadi, vous vous trouvez justement, comment l'actualité a été analysée cette semaine?
Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir discuter de ce sujet assez brillant de l'actualité. Et je voudrais d'abord dire que la réaction a été mitigée dans la mesure où certains ont poussé un offre de soulagement. D'autres, par contre, ont condamné la décision prise par le chef de l'État. Et d'autres encore ont trouvé que c'est l'occasion donnée pour réhabiliter la magistrature. Donc, voilà un peu les réactions sont partagées par la plupart de la France de la population. Non seulement la série d'ordonnances signées par le chef de l'État, mais aussi la construction du pont sur le fleuve entre Kinshasa et Brazzaville.
Merci beaucoup. Marcelin Mandouakila, vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et comment appréciez-vous le traitement que la presse a fait de l'actualité cette semaine?
Oui, l'actualité c'est beaucoup plus, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, le coup de balai opéré par le chef de l'État, que nous avons préféré appeler chez nous tsunami. Parce que c'était important d'assainir ces corps, si je veux parler du système judiciaire. Il y a eu beaucoup de terres qui ont été relevées, comme les évêques le disaient, la corruption, tout le monde s'en plaint et la dénonce, mais il n'y avait aucun effort pour l'éradiquer. Donc le chef de l'État, après la promesse qu'il avait faite transgressée dans son discours, d'assainir ses corps, et juste après, il y a eu beaucoup de réactions, dont les évêques, pour pousser. Et effectivement, il a opéré une bonne réalisation, mais assainir ses corps, ou révoquer de magistrats, etc. C'est bon, ça va apporter un peu de tonus, mais sauf que ce n'est pas tellement le remède à la corruption dans ce système. Parce que si on ramène, si on met d'autres magistrats comme on l'a fait, on les a nommés, on a permis, etc. Mais si les conditions de vie, par contre, n'ont pas été prises en compte, je crois que d'ici quelques mois, quelques années, nous risquons de revenir au même temps.
Merci, Elena Sana. Vous êtes journaliste au quotidien Le Potentiel, un journal qui paraît aussi à Kinshasa. Et y a-t-il, selon vous, une information importante qui n'a pas été évoquée dans la presse de cette semaine?
Évidemment, il y a ce que je peux appeler la fin du programme à Mali. On n'a pas mis un accent particulier sur ça. Et évidemment, nous sommes un peu concentrés sur ces deux faits-là que vous avez évoqués. Le message des évêques, ainsi que la décision des ordonnances, de 14 ordonnances du chef de l'État, ce sont ces deux faits. Mais néanmoins, on devait, à mon humble avis, se rappeler de la fin, la semaine dernière, du programme Amani. C'est très important parce que ça déterminera le reste des questions sécuritaires à l'est du pays.
Merci, c'est avec vous que nous allons passer à notre premier thème de la tribune de ce soir. Une série d'ordonnances ont été rendues publiques le 16 juin dernier à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, portant révocation, mise en retraite et promotion de certains magistrats. Au terme de ces ordonnances, le chef de l'État a révoqué près d'une centaine de magistrats de leurs fonctions, mis d'autres à la retraite et d'autres encore ont été promus. Les deux hauts magistrats, à savoir le premier président de la Cour suprême de justice et le procureur général de la République, ont été mis à la retraite. Les détails avec José Menga.
Selon ces ordonnances, le chef de l'État a pris ses décisions en concertation avec les conseils supérieurs de la magistrature. Ainsi, plus d'une cinquantaine de magistrats ont été soit révoqués, soit démis de leurs fonctions et mis à la disposition du conseil supérieur de la magistrature, ou carrément mis à la retraite. Presque toutes les juridictions ont été frappées par ces décisions du chef de l'État. De la Cour suprême de justice aux tribunaux de paix, en passant par le parquet général de la République, les parquets généraux, les parquets des tribunaux de grande instance, le coup de balai de Joseph Kabila est passé partout. Le nouveau premier président de la Cour suprême de justice s'appelle Bemwen Zikenga, tandis que le nouveau chef du parquet général de la République a pour nom Kabange Numbi. Signalons tout de même que ces ordonnances du chef de l'État tombent quelques jours seulement après que les évêques catholiques du Congo ont dénoncé la corruption dans toutes les instances de la société congolaise. Fait du hasard ou simple coïncidence, personne ne sait encore le dire au stade actuel.
Oui, Marcelin Mandouakila, quelle a été votre première impression lorsque vous avez suivi la lecture de ces ordonnances à la télévision?
Ben, je me suis dit que le chef de l'État avait bien choisi le moment de frapper.
Pourquoi?
Parce que bon, tous les habits qui ont été à la base, qui justifiaient la corruption, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Et donc c'était important. Par rapport à la promesse qu'il avait faite, par rapport à la déclaration des évêques, qu'il donne un grand signal pour dire que maintenant c'est fini, c'est le changement, on doit plus revenir à ses habits. Mais je me dis quelque part aussi, c'est pas la première fois. On a évoqué, si je me rappelle, 315 magistrats sous Kabila Père, avec le ministre Mwenze,
oui,
qui ont par la suite été réhabilités.
Oui.
C'était toujours à la base de la corruption, etc. etc. Donc, c'est bon c'est de prendre cette mesure, de donner un signal fort. Mais il faut également penser aux mesures d'encadrement, entre autres leurs conditions de vie, etc., etc., afin que la justice maintenant puisse vraiment jouer son rôle d'être vraiment l'église au milieu du village, qu'elle cesse d'être l'affaire de ceux qui ont assez d'argent et contre les pauvres. Donc je crois que c'est un bon début, mais il faut quand même du suivi pour qu'on ne tombe pas dans la situation que nous déplorons.
Oui, Sana, les avis sont partagés par rapport à cette démarche. Les uns pensent que l'approche utilisée viole la procédure, en ce sens que parmi les magistrats qui ont été promis, il y en a qui n'ont pas respecté l'évolution des carrières normales. Il y en a aussi qui pensent que cette démarche est bel et bien rationnelle. Et comment réagissez-vous face à ces divergences de vues?
J'ai suivi ce matin des réactions à ce sujet et la procédure n'a pas été suivie. Mais le chef de l'État s'est basé de résolutions prises lors de la deuxième assemblée du Conseil supérieur de magistrature. C'est ce conseil-là qui a formulé des recommandations pour pouvoir frapper dans le corps de la magistrature. Et s'il y a eu des erreurs au niveau de la procédure, c'est, les magistrats doivent s'en prendre seulement à eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas peut-être formuler ce qu'ils veulent. Mais néanmoins, ceux qui étaient frappés, réellement, étaient des magistrats corrompus. Ça, c'est indéniable, puisque on les a reprochés. Selon les ordonnances, j'ai lu quelques...
En fait, cette corruption n'est pas encore établie. C'est des présumés corrompus.
Mais de toute façon, si j'ai, malheureusement, je n'ai pas sous la main ici une des ordonnances, ce sont des faits infractionnels avérés. Sinon, le Conseil supérieur n'allait pas proposer au chef de l'État de prendre ses mesures.
Bon, avéré, c'est discutable. Est-ce qu'il y a un procès qui a été organisé à l'issue duquel ces faits ont été établis? Bon, c'est ça la question que une certaine opinion se pose.
Exact, c'est ça. Mais j'ai dit que les magistrats doivent s'en prendre. Il y a quand même une justice interne qui devait apprécier tous les actes posés par ces magistrats corrompus. Et cette assemblée du Conseil supérieur de la magistrature qui a apprécié. Mais peut-être il y a eu des erreurs de procédure, comme on le dit. Il fallait nécessairement examiner le recours de certains magistrats qui ont peut-être introduit le recours. Mais néanmoins, il y a lieu de dire que la décision est là, elle est prise. S'il y a des recours, on ne peut pas dire que bon, après le recours, on ne va pas les réhabiliter. C'est le cas de l'article 315. Lorsqu'ils ont fait leur recours et que le fait, leur reproché n'était pas exact, ils étaient réhabilités. Ce sera la même chose pour ceux qui ont été frappés par cette mesure du chef de l'État. J'aimerais aussi ouvrir une petite parenthèse pour dire que il faut nécessairement examiner aussi l'aspect, social des magistrats. La plupart des magistrats, s'ils sont corrompus, c'est que la situation sociale, elle est, d'une manière générale, catastrophique. Il y a lieu de pouvoir examiner ça. Et les magistrats devaient aussi se concerter entre eux, intéresser les avocats et même le gouvernement pour pouvoir trancher cette question de corruption. Il n'y a pas que la corruption, ils ont aussi utilisé d'autres faits, des délits infractionnels qu'on n'a même pas cités, mais les ordonnances ont évoqué ça.
Oui. Maxime Poukoudi, ces mesures ne viennent pas confirmer cette opinion répandue selon laquelle la magistrature en République démocratique du Congo est caractérisée par un certain dysfonctionnement.
Tout à fait. Je voudrais d'abord répondre sur des aspects. Le premier aspect, c'est que c'est vrai, dans la logique normale des choses, il faut qu'on arrive à régénérer l'homme congolais. Et comme la justice, c'est celle qui élève la nation, donc nous devons commencer par là. Mais je voudrais réagir en disant, nous ne devons pas tous mettre tous ces magistrats dans le même panier pour dire qu'ils sont corrompus. En fait, nous devons nous poser la question si ceux qui sont restés sont réellement les saints, et que l'appareil judiciaire aura fonctionné normalement. Donc voilà un peu, on a beaucoup crié la population, c'est beaucoup plainte, mais faudrait-il qu'on sache si la thérapeutique proposée est appropriée pour guérir le système judiciaire congolais. Donc, un certain nombre de paramètres qui doivent être maîtrisés pour que demain qu'on arrive à des résultats escomptés.
Et quels sont ces paramètres?
Oui, c'est notamment les conditions de vie, les conditions de travail des magistrats. Et je voudrais également dire qu'il faut, même pour ceux qui sont mis en retraite, ils doivent avoir une retraite honorable après un temps de travail, après de bons loyaux services rendus à l'État congolais. Donc voilà un peu un certain nombre de mesures qu'on doit maîtriser, prendre de manière à sécuriser même ceux qui vont à la retraite chez nous. Comme vous allez à la retraite, on vous envoie à la mort. Vous voyez, donc c'est tout à fait normal que n'étant pas sécurisé, les magistrats versent dans tout ce qu'ils font aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que ceux qui sont partis ne sont pas sains Et ceux qui sont restés, ce sont là les fins. Donc nous risquons de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Vous vous rappelez les 315 magistrats? C'est vrai qu'ils ont été révoqués, réintégrés. Le problème reste le même. C'est un problème d'approche. Il faut trouver des solutions appropriées pour chaque problème posé.
Oui, comme l'a dit Marcelin Mandakila, ce n'est pas la première fois que les magistrats sont mis à la retraite. Ce n'est pas la première fois que ces gens ont des mesures sont prises. Mais oui, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, les mesures qui ont été prises vont produire les résultats escomptés, c'est-à-dire l'assainissement de la magistrature?
Non, à mon avis, je crois que ça ne me rassure pas, parce qu'en fait, le fait de révoquer des gens, de mettre des gens à la retraite, mais le système reste le même, les conditions de travail, les conditions de vie restent les mêmes. Donc, il aurait fallu commencer par le commencement, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie, de travail, sécuriser même ceux qui vont en retraite, à bénéficier d'une retraite honorable, de manière à ce que ceux qui sont en fonction savent que, demain après demain, même si j'ai quitté, je ne serai pas un mouroir ou je ne serai pas quelqu'un qui va vivre de la charité publique, mais je serai honoré par l'État congolais.
Oui, Marcelin Mandoua, il y a les deux hauts magistrats qui ont été frappés par ces ordonnances-là. Et pensez-vous que le premier président de la Cour de justice, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, a souhaité aller en retraite? Parce qu'en fait, ce sont eux qui ont fait ces propositions au chef de l'État.
Oui, le Conseil supérieur de la magistrature a fait des propositions au chef de l'État, mais il ne faut pas oublier également que le ministre de la Justice avait, dès son entrée en fonction, comme mission d'essayer d'assainir un peu le corps judiciaire, de faire en sorte que la justice soit comme l'église au milieu du village et que ceux qui ont effectivement raison puissent rentrer dans leurs droits, etc. Donc, au-delà même de résolution ou des propositions du Conseil supérieur de la magistrature, je crois que le ministre de la Justice, lui aussi, qui connaît très bien ses corps, le système judiciaire, et avait d'autres éléments également. Donc, d'une manière générale, par rapport à toutes les propositions que le chef de l'État a réagi, je crois.
Oui, Yenga Sana, selon le président du syndicat autonome des magistrats du Congo, M. Samba Mutenda, il y a beaucoup de magistrats qui répondent aux critères requis pour aller en retraite, notamment quand 5 ans de service ou 65 ans d'âge. Mais selon lui, il y en a beaucoup qui répondent à ces critères-là, mais c'est pas tout le monde qui est allé en retraite. Les uns ont été frappés, mais les autres sont encore là. Et comment on peut expliquer cette sélection?
C'est ça justement, la sélection elle est un peu subjective. Je vais très loin. Le président des magistrats avait posé ce problème, c'est un problème à caractère social. Les conditions, comme j'avais dit tout à l'heure, des travail ou des conditions sociales du magistrat, ces conditions sont malheureusement vraiment dépréciables. Ça ne répond pas au minimum exigé par un magistrat ou un homme de loi. C'est si bien que si un magistrat, parce que j'ai lu dans une de ces ordonnances-là, on a révoqué un magistrat parce qu'il a refusé d'aller à son lieu d'affectation. Un exemple, on vous demande, vous magistrat, vous êtes à Kinshasa, d'aller à Isiro, parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Mais qui va assurer le transport pour aller à Isiro? Et en allant à Isiro, vous serez seul ou bien vous serez avec votre famille? Quelles sont les conditions? Vous trouverez quoi là-bas? Et ici même à Kinshasa, la plupart des magistrats travaillent dans des conditions les plus minables. Et ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas un minimum de qui. Alors c'est ça justement, la plupart des fois, le magistrat, face à cette situation, préfère ne pas y aller et il préfère peut-être cette révocation-là.
Oui, Mathieu Poukoudi, est-ce que les conditions de travail des magistrats peuvent justifier la corruption?
Oui, mais vous savez, dans la société, l'homme est son reflet. Donc, le magistrat qui est une composante, ou la magistrature qui est une composante de la société, ne peut pas vivre au-delà de, ou en dehors des réalités de la société. Et en plus de cela, nous devons nous dire que si réellement celui qui a l'habileté ou la capacité de dire le droit se retrouve même en insécurité sociale, vous comprenez à quel niveau vous exposez même le magistrat? Que derrière le billet de banque, il voit la vie. Vous comprenez? Donc, à ce niveau-là, c'est la peine que j'ai fixé, mais nous devons nous poser la question, est-ce que, d'une manière générale, est-ce que c'est le problème de Congolais? Tout à fait, parce qu'en fait, comme les évêques l'ont dénoncé, ils se posent réellement un problème de corruption à tous les niveaux, c'est pas seulement au niveau des magistrats, à tous les niveaux. Moi, je crois qu'ils sont sérieux, ils ont dénoncé ce qu'ils ont dénoncé, il leur appartient de nous apporter des preuves. Voilà un peu ce que je pouvais réagir par rapport au comportement des magistrats vis-à-vis des justiciables.
Merci, c'est avec vous que nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Les évêques catholiques ont, dans une déclaration dimanche dernier, dénoncé la persistance de la corruption en République démocratique du Congo. Dans une déclaration dénonçant la corruption sous toutes ses formes, 44 évêques et administrateurs diocésains, membres de la conférence épiscopale du Congo Cinco-Ancide, ont dressé un réquisitoire très sévère contre le gouvernement de la RDC. Qu'est-ce que les évêques reprochent au gouvernement? Le secrétaire général adjoint de la Cinco, Félicien Mwanama, répondait au micro des gens Claude Toumba dans l'émission Dialogue entre Congolais de lundi dernier.
Est-ce que le gouvernement garantit la moralité publique? Est-ce qu'il sanctionne? Est-ce qu'il informe suffisamment? Est-ce qu'il protège le faible lorsqu'il dénonce? Le salaire des enseignants qu'on détourne nos vies au-dessus de tous, est-ce qu'il y a des mesures? Vous me dites que le passeport coûte autant, quand je vais là-bas, je dois glisser l'argent dans des chemises pour déposer mon dossier. Que fait le gouvernement? Vous me dites qu'une plaque d'immatriculation coûte autant. Ça coûte $50 quand j'arrive là-bas. Non, il y a des frais supplémentaires. La nomenclature n'est même pas connue. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Les prix des denrées alimentaires. Qu'est-ce que le gouvernement fait?
Oui, Mathieu Pocodi, c'est la énième fois que les évêques dénoncent ce fléau que la corruption, mais rien ne change. On a même l'impression que la situation empire. À votre avis, que faut-il faire?
En tout cas, déjà, à ce niveau-là, nous devons le dire que c'est d'abord une crise morale, une crise d'identité, parce qu'en fait, pour un peuple qui est versé dans la plus corruption, vous dites que quelque part, il se pose un problème de morale. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut préconiser? Mais tous ces dirigeants, ils sont croyants dans ceci, croyants dans cela. Donc, ils se posent un problème si le gouvernement n'arrive pas à agir. Mais en tant qu'encadreur spirituel, moral, tout ça, les responsables des églises, ils peuvent animer des séminaires dans ce sens-là pour poser un sujet, parce qu'en finance, ce sont les responsables des églises qui en sortent diminués. Ce sont les mêmes personnes à qui vous enseignez la bonne nouvelle, pour une conduite morale assez acceptable pour tout le monde, mais ce sont les mêmes personnes qui sont devant de la scène. Vous comprenez ce contraste qui fait qu'aujourd'hui, on rejette tout sur l'État. Mais non! Ils ont également une part de responsabilité.
Oui, et maintenant, vous êtes du même avis que Mathieu Pocodi, qui dit que les hommes de l'Église ont aussi une part de responsabilité dans cette corruption qu'eux-mêmes sont en train de dénoncer.
Bon, c'est un avis personnel, mais de toute façon, les hommes de l'Église ont dénoncé la corruption, mais en y ajoutant qu'il y a la faiblesse de l'État. Puisque si on dénonce un fait malheureux, il faut des sanctions. Et il n'y a pas de sanctions qui s'en suivent. C'est ça la dénonciation des évêques. Ils ne se sont pas arrêtés uniquement à la corruption, mais ils ont dit que l'État pratiquement n'existe pas. Et cette corruption, et je crois que si bien mon confrère a bien lu ce message-là, eux-mêmes n'étaient pas épargnés parce qu'ils ont dit qu'il faudra nettoyer même au sein de certaines églises, puisque cette corruption touche pratiquement toutes les couches sociales de la société. Alors, s'arrêter à dire que bon, eux-mêmes, il faut qu'ils se regardent, mais évidemment, ils interpellent non pas seulement, et ce message-là s'était adressé d'abord aux chrétiens catholiques, aux hommes et aux femmes de bonne volonté, ainsi qu'à la communauté congolaise. C'est bien précis.
Et donc, il faut que toute la société puisse s'impliquer dans la lutte contre la corruption, parce que, comme vous venez de le dire, la corruption est vécue dans toutes les structures de la société congolaise.
Exact.
Marcelin Mandouakila, comment votre journal Le Forum des As a-t-il analysé la démarche des évêques?
Oui,
cette dénonce. D'abord, il faudrait que les évêques condamnent la corruption, non pas seulement au sein des institutions politiques, mais pratiquement à tous les niveaux. Ils ont notamment cité l'administration publique, ils ont cité la territoriale, la magistrature, l'éducation, l'armée, la police, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut, d'une manière générale, je crois, un système organisé par l'État pour lutter contre les antivaleurs. Et ces antivaleurs ne se limitent pas seulement au niveau de la magistrature. Ça, ce n'est qu'un pôle. Quand on dit au niveau de toutes les institutions, il faut partir aussi du sommet. Donc, à tous les échelons, ces fléaux essayent un peu de nous plonger tous dans un gouffre. Mais il faut organiser un système qui puisse, non pas seulement se limiter à combattre la corruption, mais pratiquement tous les antivaleurs. C'est ce qui manque. C'est comme ça que les évêques disaient qu'il manquait une volonté pour combattre la corruption et pour l'éradiquer. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois aussi, le ministre de la Justice a parlé de couloirs en cravate. On a arrêté les petits délinquants, mais il lui a parlé de couloirs en cravate, c'est-à-dire des ministres. Il faut que là aussi, n'oubliez pas que les évêques ont dit quelque chose, ils ont parlé d'enrichissement malhonnête au sein d'une population appauvrie. Donc, même aussi au niveau du gouvernement, le chef de l'État doit également s'actionner. Il ne faut pas seulement dire que dans ce pays, la corruption, c'est le fait de la magistrature. Non, c'est à tous les échelons. On ne veut pas citer des cas que nous connaissons, mais il faut un système qui nous permette de lutter contre les antivaleurs d'une manière générale, afin que nous puissions mettre sur pied réellement un état de droit et un état qui permet à sa population de vivre comme vraiment des hommes, pas comme c'est le cas maintenant, la population est complètement appauvrie, conservatisée, réduite à la mendicité. Ça, ce n'est pas un système qui garantisse même le développement du pays. Et la corruption est parmi les terres qui freinent le développement de ce pays. Parce que l'argent ne va plus dans les caisses de l'État, les gens n'accèdent plus à certains services en fonction de taux fixés ou de montants fixés, mais comme mon confrère l'a relevé, même pour le passeport, etc., c'est plutôt levé que je crois. Même pour le passeport, dont tout le monde se plaint. Donc en fait, il y a beaucoup de terres, c'est dans tous les domaines. Et ce signal fort que le chef de l'État a donné doit être suivi de fait. Si au niveau du gouvernement, il y a des ministres qui détournent, on doit les arrêter, le mettre en prison, les révoquer. On avait arrêté les entrepreneurs. Ils avaient bouffé l'argent, les travaux n'étaient pas faits. Quelques jours après, des coups de fait passent, ils ont été relâchés. Ça, c'est un mauvais exemple. Donc, il ne faut pas seulement que le magistrat se dise, quand c'est nous, on frappe, quand ce sont des entrepreneurs, donc le groupe poisson, on ne frappe pas, mais il faut un système général qui nous permet de lutter contre les antivaleurs et d'organiser des voies pour le développement de ce pays en rassurant tout le monde.
Et donc, il ne faut pas se limiter au seul magistrat.
Non. Même le ministre, on le sait comment ils s'enrichissent. Il y a des cas qui sont connus, et le PDG, le gouverneur, tout ce monde-là, il faut qu'il y ait des mesures à tous les échelons.
Oui, Mathieu Mpokoudi, qu'est-ce que vous préconisez pour éradiquer, peut-être que c'est trop fort, mais pour combattre la corruption?
Oui, d'abord, la première des choses, vous savez qu'il est difficile d'éradiquer la corruption. Il faut plutôt ramener la corruption à des proportions acceptables. Bon, excusez-moi la terminologie, mais je crois que si déjà à ce niveau, l'État s'assume, l'État doit être capable de pouvoir exercer ce pouvoir régalien, ses fonctions régaliennes. Oui, et quand l'État ne sait pas distribuer équitablement les revenus nationaux, c'est là où le déséquilibre est à la base de l'enrichissement illicite, de la corruption à travers les différentes couches de la population. Donc, cette situation est ressentie à quelque niveau que ce soit de l'État. Mais comment y arriver? L'État doit s'assumer. L'État doit réellement payer ou rendre ce qu'il doit à celui-ci, au huissier, au chef de division, au gouvernement, au chef de l'État. Et c'est comme ça que quand les équilibres sont assurés, c'est alors que les choses peuvent normalement marcher. Il y aura une atténuation de la corruption chez nous. Mais à défaut, vous verrez que quand les autres s'enrichissent scandaleusement, et alors que les uns propulsent dans la misère la plus noire, tout naturellement, chacun doit tirer la couverture de son côté et chercher à arrondir les angles.
Oui, et maintenant, votre point de vue?
Je renvoie quand même nos éditeurs à ce que nous avons écrit ce matin. Nous avons demandé au président de la République, le chef de l'État, qui doit aller jusqu'au bout de sa logique.
Ça, c'est dans le quotidien, le potentiel.
Le potentiel, bien sûr. Ça veut dire quoi? Nous avons demandé que, au grand mot, il y a des...
Les grands remèdes.
Voilà, exact. Alors, dans ce cas, par conséquent, il faudra qu'on puisse inventorier d'abord quels sont les secteurs susceptibles d'être touchés par la corruption et pouvoir apporter des solutions. Et n'oublions pas que la RDC figure parmi les pays où la corruption, nous sommes peut-être parmi les 10 pays où la corruption est retenue, et nous avons promis aux institutions internationales de pouvoir lutter contre la corruption et l'impunité. Donc nous devons sévir, et c'est ça la grande préoccupation, mais ce n'est pas à nous autres de pouvoir décider, mais il y a une procédure à faire, et le gouvernement, à la rentrée parlementaire ici, doit proposer des lois qui peuvent aller contre la corruption, et il appartient au Premier ministre d'élaborer ces lois-là à travers son gouvernement.
Mais l'initiative peut aussi venir des parlementaires eux-mêmes.
Oui, il y a des propositions de loi, ça peut venir, mais néanmoins, maintenant, la locomotive est tirée par qui ? Par le gouvernement. C'est au gouvernement de prendre des initiatives. Nous avons voté pour ça.
Merci. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. Le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, a été réélu avec plus de 78% des voix. Cette victoire annoncée a été contestée par l'opposition dont la marche des protestations a été dispersée mercredi dernier à Brazzaville. Quelques heures après l'annonce de sa victoire, Denis Sassou Nguesso a demandé à la population de célébrer ensemble la victoire de la démocratie. Le point avec Arsène Severin.
Au moment où le gouvernement annonçait la victoire du président sortant Sassou Nguesso dès le premier tour avec 78,61% des voix, l'opposition organisait une marche à Brazzaville. À la hauteur de l'ex-cinéma ABC, les manifestants ont été pris en sandwich par la police anti-émeute. Tirs de gaz lacrymogène, jets de pierre, puis coups de feu. Une personne a été blessée par balle. La marche était conduite par les opposants Mathias Nzon, Clément Mirassa et Emmanuel Ngolondele. Quelques temps avant, ils ont été dispersés au palais du Parlement de Brazzaville où ils allaient tenir une conférence de presse. Rappelons que d'après les résultats officiels des votes, Sassou Nguesso est suivi de Joseph Kinyumbi Kiamungo 7% et de Nick Sylla 6%. Le taux de participation était de 66,49%. Arsène Severin, Brazzaville, Radio Capi.
Et Ngansana, vous êtes journaliste au quotidien Le Potentiel, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et avez-vous été surpris par la réélection du président Denis Sassou Nguesso?
Oh non, pas du tout. Au contraire, tout a été planifié pour que le chef d'État Sassou Nguesso puisse être réélu.
Tout a été planifié, ça dit.
Mais évidemment, à travers sa campagne. Je dirais que l'opposant qui a manifesté le mercredi, l'opposant radical Mathias Nzom de l'Alliance pour la démocratie et la République, n'a eu que 2,30%. Et c'est cet opposant-là qui a dit qu'on ne puisse pas participer. Il y a eu un taux assez élevé
d'abstention.
Oui, exact. Il y a 80% environ. Alors, ce qui a fait que la plupart des gens n'ont pas été au bureau de vote pour élire leur futur chef de l'État. C'est le drame. Leur commission électorale a fait ce constat. C'est un opposant plus ou moins modéré qui est passé en deuxième position. Mais tout ça, c'est que c'est une interpellation pour le régime du président Sassou. Nous constatons qu'en Afrique, on essaie un peu de planifier, comme j'ai dit, les élections de façon à ce qu'on puisse continuer. Mais nous souhaiterons que les observateurs puissent nous dire quelque chose. Apparemment, dans les reportages, on ne fait pas allusion au point de vue des observateurs neutres, notamment de la CAC et de l'Union africaine. Quel est leur mot? On ne sait pas, on n'a pas entendu.
Oui, Mathieu Mpokodi, vous êtes éditeur du journal L'Embouchure, c'est un journal qui paraît à Matadio, Bakongo. Cette élection est contestée par l'opposition au président Sassou. Et finalement, que peuvent faire les Africains pour organiser des élections susceptibles de mettre tout le monde d'accord?
D'abord, c'est un problème de culture, parce qu'en fait, nous savons que chez nous en Afrique, quand on organise les élections, on a plus de 90% de pouvoir les remporter parce qu'on sait, comment on pourra manigancer. Mais bon, comment y arriver à corriger de manière à ce que dans l'avenir, qu'on évite des contestations? Moi, je crois que c'est un problème de culture. Il faut sortir au bon moment. Les politiciens africains doivent savoir sortir le moment venu. Mais chez nous, on s'accroche au pouvoir, on veut mourir au pouvoir et puis, je crois que rester au pouvoir pour le pouvoir. Moi, je crois que c'est un problème de culture et que nous devons intérioriser la notion de la chose publique qui appartient à tout le monde.
Oui, mais est-ce que c'est pas l'opposition qui a préparé le lit au président Sassou? Parce que, à quelques jours des élections, des candidats ont demandé à la population de boycotter ces élections. Et vous ne pensez pas que c'est cette opposition-là qui a permis au président, finalement, de remporter ces élections?
Non, je ne pense pas. Ils ont le droit de s'abstenir. Mais aussi, nous devons nous dire, quand les choses ne semblent pas toutes au départ claires, il y a lieu de dire que nous ne voulons pas cautionner la tricherie. C'est comme ça que nous avons autorisé à ce qu'on puisse boycotter. Ben, ils ont peut-être raison. Mais bon, il semble qu'au finish, ça se finira par gagner les élections, qu'il y ait boycott ou pas.
Non, mais pourquoi ne pas les faire au début du processus? Ils s'engagent, ils évoluent, et lorsque le processus est sur le point d'aboutir, c'est à ce moment-là qu'ils se retirent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie?
Bon, de toute façon, à un certain moment, on ne sait pas prendre une décision sans avoir maîtrisé tout le contour. Donc, à leur niveau, ils ont pensé adhérer au processus, mais quand ils ont compris qu'il y a eu des choses qui ne leur plaisaient pas, ils ont ce droit-là de dénoncer, de se rétracter. Mais bon, que ce soit une faiblesse ou pas, mais bon, ce qui est vrai, c'est que comme l'a dit le confrère Inga, tout marchait ou tout concourait à la réélection de Sassou, qui est cette rétractation ou pas.
Oui, Marcelin Mandouakila, vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Le président Sassou Nguesso est revenu au pouvoir le 15 octobre 1997, après une guerre civile qui a sévi dans ce pays depuis 1993. Et depuis 1997, ce pays a connu une certaine stabilité. Est-ce que cela ne peut-il pas expliquer la victoire du président Sassou Nguesso?
Non, il faut faire la part des choses. Parce qu'à Brazzaville, disons au Congo-Brazzaville, il y a aussi un problème interethnique, notamment entre les Sud et les Nord. C'est vrai que Sassou a des atouts. Après la guerre, il a passé quelques mois pour reconstruire la ville de Brazzaville. Ça nous a tous épatés. Mais je ne crois pas que cela puisse expliquer.
Il n'y a pas que la ville de Brazzaville. On parle
oui, même au Rwanda,
c'est beaucoup de provinces.
Oui, oui. Donc, il s'est reconstruit sa ville. Mais je ne pense pas que cela ait justifié sa victoire, d'autant plus qu'il était plus contesté au Sud, où il y a vraiment la majorité, d'après les informations en ma possession. Mais je crois que d'une manière générale, je dirais que les chefs d'État d'Afrique candidats à leur propre succession, qui échouent aux élections, ça n'existe pas tellement. Parce qu'ils ont le contrôle de l'appareil de l'État, et ils savent même le contrôle aussi de la commission qui organise les élections. Donc c'est facile pour quelqu'un qui est au pouvoir de tout organiser, malgré les contestations, pour arriver à se maintenir à la tête du pays.
Mais il était candidat, le président Sassou Nguesso était candidat à sa propre succession en 1992, lorsqu'il a perdu. Il s'est plié au verdict des urnes, il est parti.
Oui, le contexte n'est plus le même. Depuis qu'il y a eu la guerre entre les différentes ethnies, j'ai parlé du Nord et du Sud, il ne faut pas dire que la situation est la même qu'avant. Donc au Sud, là où il y a les boycotts en plus été observé, c'est des gens qui n'étaient pas d'accord avec ceci. Mais ça aussi, je voulais relever quelque chose, contrairement à mon ami de Matadi, je vois que l'opposition parfois joue le jeu. J'ai suivi lors de la campagne un opposant qui reconnaissait les compétences de ceux qui sont au pouvoir.
et on a suivi des discours de plusieurs opposants, et on s'est dit, est-ce que finalement il n'y a pas un jeu organisé entre l'opposition et le pouvoir? Généralement, ça se termine par un gouvernement d'union nationale, où les opposants figurent également. On a expérimenté aussi ça a plusieurs fois, à l'époque avec, je m'excuse, ça n'engage que moi, le président Wade, qui à l'époque était un opposant aux élections, il contestait, il y avait de masse, il dénonçait les fraudes, mais après il s'est retrouvé ministre d'État, il démissionnait quelque temps avant les élections. Ces jeux-là, entre le pouvoir et les opposants en Afrique, ces jeux, on les connaît vraiment.
Est-ce qu'il faut analyser la situation actuelle au Congo-Brazzaville? Vous pensez qu'on va aboutir à ces scénarios où on met en place un gouvernement d'union nationale et à la tête de ce gouvernement, il y a un opposant?
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un opposant à la tête du gouvernement parce qu'ils ont boycotté, ils n'ont pas de majorité. Mais je crois que quelques opposants, pas tous, ils vont se retrouver dans ce gouvernement parce que je pense qu'il y a des opposants peut-être qui étaient de mèche avec le président Sassou. Mais boycott arrange aussi les choses. On a vu ça avec l'UDPS. L'UDPS qui pouvait, s'il s'était engagé dans le processus électoral ici, pouvait même avoir un nombre important de députés à l'Assemblée nationale, comme le PASO qui a pu avoir la primature. En refusant de voter, quelque part, l'UDPS a fait le jeu du pouvoir ici, a facilité la tâche au président Kabila. Donc, ce sont des choses qu'on voit généralement en Afrique. Il fallait pas boycotter. Moi, je pense que l'opposition devrait participer, faire le résultat qu'il pouvait faire, savoir changer, essayer de faire changer les choses de l'intérieur et voir les séances futures. Le boycott, pour moi, c'est pas une solution.
Oui, monsieur Yamassana, en fait, toutes les grandes personnalités qui pouvaient affronter, qui pouvaient être à même d'affronter le président Sassou Nguesso, notamment Yomi Opango, Kolela, et ont finalement accepté de composer avec lui. Est-ce que cela n'a pas permis au président Sassou aussi de remporter avec beaucoup de facilité ces élections?
J'aimerais tout simplement rappeler à tous les leaders africains le message d'Obama prononcé à Accra. C'est simple. Si nous voulons avoir une bonne démocratie dans la transparence, nous devons nous inspirer de l'expérience du Ghana. C'est tout. Le reste, c'est de la mascarade.
Oui, votre point de vue, Mathieu Nkokodi?
Je suis tout à fait d'accord avec la conclusion de M. Yinga, de notre confrère Yinga, parce que nous devons attendre, nous devons imiter les bons exemples.
Oui, mais les bons exemples, c'est pas aussi M. Sassou qui prend un pays exsangue parce que le pays a connu 5 ans de guerre. Il vient stabiliser le pays, il reconstruit le pays. Est-ce que ça, c'est pas un bon exemple?
Oui, mais nous savons comment il est arrivé. C'était à l'issue d'une rébellion. Et puis, vous savez, on fait la guerre. Il y a des effets collatéraux. Donc, voilà, on se sentira jamais heureux quand on a été à la base de la misère de ceci ou de cela.
Merci, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à Patrick Kiasonga qui était à la technique et Kelly Kouté qui a réalisé pour vous cette émission. Sous la coordination de Martin Sebou-Jangoué, en leur nom, Guy Mathé vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Kapi. Thank you.